quand tu es en poste, t'as un devoir de réserve, comme tout fonctionnaire, quand bien même t'es contractuel ou pas. Donc là, je pense que ce sera plus difficile pour toi de
Ben
trouver
c'est
des
ça
gens
qui est
qui sont
compliqué.
actuellement en poste et qui veulent parler, ouais.
En plus, tu sais, à l'OFPRA, c'est pas compliqué. À l'OFPRA, les entretiens sont enregistrés. Hein. Donc il suffit qu'ils retrouvent des enregistrements avec nos voix, qu'ils
Les
comparent
officiers en
et qu'ils confirment ou
activité
bien.
qui potentiellement.
Alors, j'en connais, mais je sais ce qu'ils vont me dire. Donc je préfère pas te faire
C'est un
perdre du
devoir
temps.
de réserve quand même. Enfin,
Ouais.
c'est pas rien, quoi. Donc même avec
De ton
l'anonymat, même
côté, c'est
avec.
la vie des gens. Donc,
Ouais.
t'as pas forcément envie qu'on en parle. C'est pas aller au-delà de ça. Parce que déjà, c'est beaucoup parlé, tu parles beaucoup.
Ouais.
Je sais
Mais
pas trop ce que ça va
peut-être que
donner
tu as
comme
des
réponse.
personnes qui seront tout à fait disposées sous couvert d'anonymat
Ouais.
à témoigner, hein.
Ouais, ça
Je te le
c'est.
souhaite en tout cas.
L'asile est entre leurs mains. Un podcast d'Augustin Campos.
Bonjour, bienvenue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Je suis l'officière de protection en charge de votre demande d'asile et monsieur l'interprète va se charger de traduire dans votre langue mes questions et en français vos réponses. Est-ce que vous comprenez bien monsieur l'interprète?
J'ai travaillé sur 18 pays à l'OFPRA. Les officiers de protection sont formés à faire des entretiens avec des techniques d'entretien diverses et variées qui sont censées respecter le droit des demandeurs d'asile et respecter justement la nécessité d'un entretien personnalisé où l'officier de protection va essayer de rechercher les éléments de l'histoire de la personne qui est interviewée qui vont permettre de la faire entrer dans la Convention de Genève et donc le statut de réfugié.
Convention de Genève, article 1er. Aux fins de la présente convention, le terme réfugié s'appliquera à toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses origines politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. J'étais officière de janvier 2017 à septembre 2018. On est censé faire une distinction stricte entre les réfugiés économiques et les réfugiés politiques. C'est la base de toutes les interprétations qu'on doit faire des entretiens. Dès qu'on voit que la personne vient surtout pour des motifs économiques, bah on passe pas plus de temps en entretien.
On travaille pour un État. Et un État, ça fait beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses que ça ne fait pas. Moi, ça m'allait tout à fait. Ça m'allait tout à fait d'avoir justement ce mur de l'État, parce que moi, ça me protège hein, de dire que je travaille pour un État. D'avoir cette Convention de Genève aussi, qui me permet d'avoir une assise pour refuser des gens. Mais tu travailles pas à l'OFPRA si tu veux si tu veux aider enfin si tu voilà si tu veux résoudre la misère dans le monde. C'est pas enfin ce serait pas logique de dire ça serait pas cohérent.
Alors, pour votre information, je vous signale que cet entretien est enregistré dans le micro que vous voyez ici. De la même manière, je vais écrire toutes mes questions et vos réponses pour garder une trace de l'entretien. On va t'assigner trois nationalités en fonction un petit peu des préjugés qu'on a sur le type de demandeur que ça va être. Comme les Congolais parlent beaucoup et que les Soudanais moins, les Soudanais ils sont pas chiants en entretien parce qu'ils parlent pas. On va donner Congolais plus Soudanais plus une autre nationalité pour gérer le temps en fait, ton temps de travail en entretien. C'est les formateurs, c'est les tuteurs, c'est les chefs qui te préviennent un petit peu sur ce genre de choses et qui te disent d'avoir telle ou telle attitude en fonction des nationalités. Bah au début on nous dit hein, de pas avoir de préjugés en rentrant en boxe, mais c'est juste histoire de dire quoi. Très vite, on nous demande de pas passer tant de temps que ça en entretien avec les Nigérianes. Parce que c'est toujours la même chose et que de toute façon ça sert à rien parce qu'elles sont toutes victimes d'un réseau de prostitution forcée et qu'elles vont jamais nous dire la vérité. Donc du coup autant aller vite sur ces dossiers quoi. On n'a pas d'expérience forcément dans la manière de mener un entretien, dans l'écoute des persécutions. Ça vraiment on n'a aucune formation, même si on nous dit au début d'avoir une écoute bienveillante, qui soit pas sympathique mais qui soit empathique, ça c'est les termes qu'on nous dit. Donc en fait, on part du principe que tous les officiers sont des personnes qui savent savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Et tout est fait pour qu'on se sente supérieur, pour qu'on sente qu'on a le pouvoir de leur faire dire ou pas certaines choses. Que si les personnes n'ont pas dit, n'ont pas raconté exactement leur vécu de manière suffisamment précise, c'est pas de notre faute, c'est de la leur, c'est parce qu'ils n'ont pas un vécu qui nous intéresse, qui rentre dans les critères de la protection de réfugiés.
Fournir un récit écrit, c'est obligatoire, parce qu'une demande d'asile, elle doit être quand même fondée. C'est pas « bonjour, je demande l'asile », c'est « bonjour, je demande l'asile parce que ». Donc nous, c'est ça qu'on reçoit, et c'est avec ça qu'on prépare l'entretien en amont.
Même si l'entretien est enregistré, il est confidentiel. C'est-à-dire que nous n'allons rien transmettre ou répéter, ni aux autorités de votre pays, ni à votre communauté en France, ni à votre famille ou vos amis.
On essaie de comprendre leur histoire, on n'essaye pas de la minimiser, on n'essaye pas de la maximiser, on n'essaye pas d'être paternaliste. On essaie juste d'avoir une conversation entre un humain qui a un pouvoir d'octroyer ou pas, mais justement, il ne faut pas en abuser, et un autre humain qui est en demande. Il faut comprendre cette demande. Faut y accéder, si c'est possible, si le droit nous le permet. Je suis un petit élément. Et surtout, ces gens, moi, dans leur parcours, je pense que je suis vraiment un détail. Vu ce qu'ils ont vécu, vu d'où ils viennent, pour tous, hein, tous ceux dont on accorde la protection et ceux dont on n'accorde pas. Et du coup, j'essaye juste de leur donner un visage de la France qui est correct, convenable, professionnel et humain à la fois.
Sentez-vous libre de vous exprimer. Vous avez l'obligation de coopérer dans la mesure où vous devez participer en répondant le plus précisément possible à mes questions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le signaler.
C'est important de se le rappeler quand même tous les jours, tous les matins quand on va au travail, de se dire ça c'est le là c'est l'interview la plus importante de la vie de cette personne. Parce que ça va décider de l'endroit où elle va vivre, l'endroit où elle va construire son futur, et aussi décider si cette personne va retourner dans un pays où elle risque des persécutions. Donc c'est hyper important, et en même temps, on reçoit tellement de gens en un temps très court que parfois on perd... de vue la perspective et l'importance de cet entretien.
Quand on descend en entretien, comme on dit, on a pris connaissance du dossier de la personne, donc on sait quelle est sa demande, on sait si, normalement, grosso modo, parce qu'ils ne peuvent pas tout écrire, on sait ce qui leur est arrivé. Donc, on prend des pincettes. Donc on prend des pincettes selon le degré de vulnérabilité, selon la forme de vulnérabilité qu'ils ont.
S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le signaler. De la même manière, si vous avez besoin d'une pause ou d'un peu de temps pour prendre l'air, n'hésitez pas, il n'y aura aucun problème pour arrêter quelques minutes l'entretien.
On part du principe que ce qu'il nous raconte, c'est son histoire. Et c'est quand on voit qu'il y a un élément bizarre où on lui dit « mais pourquoi ?» Voilà, on lui demande, on lui pose la question. Et ben, si ça ne retombe pas sur ses pieds... franchement, il y a des fois où tu ne réalises pas. Hein. Enfin, il y a des histoires abracadabrantesques, pour paraphraser un ancien président de la République, qui sont complètement vraies. Parce qu'en fait, elles te sont justifiées d'une façon que tu n'aurais jamais pensé. Donc là, c'est personnalisé. Tout le monde a des histoires de fous à raconter. Mais c'est juste qu'après, il faut les expliquer. Et comme ils sont en demande de protection, ils ont une obligation d'explication. Tu vois, on ne peut pas se contenter d'histoires dites comme ça, à tue-tête. Il y a beaucoup de choses qui restent cachées. Il y a beaucoup de choses que les gens vont taire. C'est normal, c'est humain. Hein. Il y a des choses que tu n'oseras pas dire ou tu ne pourras pas. Enfin, tu ne pourras pas verbaliser. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Surtout avec des gens qui ont vécu des parcours traumatiques. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir les éléments qui permettent de raccrocher à une protection internationale. Donc, dès qu'on a un élément comme ça, on s'y raccroche comme une bouée de sauvetage, sans faire de mauvais jeu de mots.
Est-ce que vous avez des questions avant de commencer l'entretien ? Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me dire d'abord pour quelles raisons vous avez dû quitter votre pays ?
Et la deuxième chose, si la personne n'arrive pas à raconter son histoire, ou la raconte mal, ou de façon peu convaincante... Mais en fait, c'est pour ça que t'es là. On n'attend pas de quelqu'un qui ait une histoire construite avec un plan, avec des arguments étayés, avec un langage châtié, voilà.
nous disait qu'il fallait surtout qu'ils aient l'air spontanés, c'est-à-dire que s'ils racontaient quelque chose qui rentrait complètement dans les critères du statut de réfugié, mais qu'ils le racontaient de manière trop, comme si c'était appris par cœur, c'est un peu douteux, on pouvait soupçonner que quelqu'un les ait entraînés, qu'on leur ait dit comment faire pour avoir le statut de réfugié. On pouvait juste écrire dans la décision que les propos n'étaient pas très spontanés, et voilà, faire un rejet. Qui on est en tant qu'officier, qui connaissons principalement la France, pour savoir si la personne est en danger ou pas. Enfin, on n'a jamais mis les pieds dans ces pays. Même si on y a mis les pieds dans ces pays, on ne connaît pas la situation de manière approfondie, on ne sait pas ce que vivent vraiment les populations.
À partir de quand vous avez commencé à vous intéresser aux problèmes politiques ?
Ça arrivait souvent qu'entre collègues, on tourne en dérision un dossier de demande d'asile. Donc avant même que la personne ait été entendue en entretien, on lise l'histoire et qu'on se dise « Oh, c'est une énième histoire de Tchétchène qui... est allé cueillir de l'ail dans la forêt et s'est fait enlever par des combattants. » Ou alors parfois se moquer d'un récit qui à leur sens paraissait peu probable, parce qu'il y avait un petit détail, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a un petit détail qui paraissait rigolo. Mais c'était sûrement un détail qui faisait tout à fait sens pour le demandeur d'asile. Et nous, avec notre regard d'Européens, on allait trouver ça... pas plausible, alors que finalement les gens qui demandent l'asile, ils vont même celui qui va mentir, il va mentir sur des faits qui arrivent dans son pays d'origine. Je vais entendre une histoire qui est similaire à 10, 15, 20 autres histoires que j'ai déjà entendues, mais c'est normal parce que en général, les auteurs des persécutions utilisent les mêmes méthodes. Cependant, certains officiers de protection vont se dire oh, encore cette histoire, comme si l'un avait repris l'histoire de l'autre. On peut pas non plus, en effet, tomber dans l'extrême inverse de l'angélisme. On va se dire ah oui, il me dit ça, c'est incroyable, et on accepte les déclarations telles qu'elles viennent. On est quand même obligé de faire une analyse poussée de ces déclarations pour vérifier qu'elles sont bien crédibles.
Pour quelles raisons vous avez choisi cette partie-là ?
Y a des nationalités, il y a des gens qui culturellement n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, même de s'exprimer personnellement sur leur histoire. Je pense aux Soudanais, on voyait bien qu'il y avait un vrai décalage, dans le sens où ils ne voulaient pas parler. C'était pas vraiment un refus, c'est juste que ça leur semblait pas naturel, logique, de parler à un inconnu de leur situation personnelle, de choses très graves qu'ils avaient vécues, après seulement 5 minutes de présentation, dans une ambiance très froide, dans une ambiance qui leur rappelait ce qu'ils avaient vécu éventuellement lors de leurs arrestations dans des postes de police, qui leur rappelait les violences subies pendant l'immigration, où ils doivent passer plein de contrôles. Et parfois où ils étaient menés à la torture, donc ils n'étaient pas dans des positions pour s'exprimer. Et on prend jamais en compte les différences culturelles des personnes, alors que c'est un moment qui est crucial.
Est-ce que vous avez des preuves ?
Je reprends l'exemple des Soudanais. Ils nous répondaient souvent sèchement en une phrase qu'ils avaient passé leur enfance dans un camp de réfugiés. Et en fait, comme ils étaient dans un camp de réfugiés, ils ne pouvaient pas nous raconter la guerre, parce qu'ils étaient justement à l'écart des affrontements et qu'ils n'avaient pas vu grand-chose.
Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez été ciblé, vous, personnellement ?
Parce qu'en plus, ils ont d'autres référents culturels. Il y avait des demandeuses qui disaient qu'elles n'étaient pas violées, mais qu'elles étaient embrassées par des serpents, alors qu'en fait, c'était des viols. Et on n'était pas formés pour avoir une lecture... d'une traduction.
Par où êtes-vous passé pour venir en France ? Merci de me dire les dates et les étapes de votre voyage.
La plupart des personnes que je recevais étaient passées par la Libye. Et on a entendu plein de témoignages avant que ça sorte, quoi. Avant que ce soit très médiatisé, les marchés d'esclaves en Libye. Donc nous, on entendait ça dans les entretiens, on se demandait quoi faire. Comme c'était pas connu, ça n'a pas été étudié, c'est pas apparu dans les médias, ça n'existait pas, quoi. Donc ça n'existe. Donc on ne devait pas les écouter là-dessus. Ils nous disaient, ça rentre pas. Peu importe ce qui leur est arrivé en Libye. Sauf que dans les faits, pour l'entretien, c'était très difficile parce que les personnes qu'on recevait, quand on leur demandait de raconter notre histoire, elles ne savaient pas par où commencer. Parce qu'il y a plusieurs histoires. Il y a ce qui leur est arrivé dans leur pays et ce qui fait qu'ils ont quitté le pays. Il y a le trajet, il y a la Libye, il y a la Méditerranée, il y a le fait qu'ils ont perdu des proches dans la Méditerranée. Donc elles ont envie de raconter ça aussi, les personnes. Or, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé avant leur départ. Parfois, ça remonte à plusieurs années, donc c'est très difficile pour elles d'en parler. Parce que c'est pas le plus vif. Et qu'elles vont pas en parler de la même manière que ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles sont en train de vivre, ou ce qu'elles ont vécu dans le trajet migratoire. C'est parmi les pires histoires de vécu que j'ai entendues, c'est sur la Libye.
Article L711-1 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, ainsi qu'à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er.
On ne doit pas l'avoir plus détruit qu'elle ne l'était déjà, à la fin de l'entretien. Donc, si pendant l'entretien, il faut s'arrêter, faire des pauses, éluder des sujets, éventuellement, donner des mouchoirs, tu vois. Enfin, faire ce qu'on peut. Après, on reste dans un box, on reste dans une administration, tu vois. Donc, je peux pas lui proposer autre chose.
Je vous remercie pour toutes ces précisions. De mon côté, j'ai suffisamment d'informations concernant les motifs qui vous ont poussé à quitter votre pays, donc je n'ai plus de questions. L'entretien est terminé. Je vais vous indiquer la procédure à suivre à partir de maintenant.
C'est fragile dans le sens où c'est quand même pas beaucoup d'éléments pour prendre une décision qui est très importante pour la vie de la personne. J'avais des très longs entretiens. Il faut savoir qu'après un entretien de 2 heures, il faut corriger la retranscription. Ça peut mettre beaucoup de temps pour qu'il n'y ait pas de faute, quoi. Et après, l'étudier, analyser les propos au regard de la doctrine, au regard de la situation du pays. Et si on fait bien son travail et qu'on fait des recherches sur l'entretien pour vérifier les dires et pour établir si la personne rentre dans les critères pour avoir le statut de réfugié, ça met beaucoup de temps, quoi.
Dans quelques temps, ça peut durer quelques semaines ou quelques mois, vous allez recevoir une décision.
On a un entretien à la fin du mois avec son chef de section pour discuter de son travail en général, et la question du chiffre revient systématiquement. On peut très bien dire, t'as rendu moins de décisions que le mois dernier, ou t'as rendu moins de décisions que la plupart de tes collègues, alors qu'est-ce qui se passe ?
Il faut qu'on fasse 100% des décisions, il faut qu'on fasse un certain pourcentage pour avoir la prime de fin d'année.
Et parfois, c'est difficile de l'expliquer. Parfois, c'est simplement qu'on est fatigué. Alors oui, on va travailler plus lentement, on va produire moins de décisions. C'est intéressant, j'ai utilisé le vocabulaire « produire » parce que c'est un vocabulaire qui existe à l'OFPRA et ça démontre que on est presque dans l'industrie. On produit des décisions, il y a un rendement.
Et voilà, donc si on prend du retard, si on ne fait pas nos 2 décisions par jour, ça nous porte préjudice pour la prime, pour l'avancement, pour qu'on nous confie de nouvelles responsabilités.
Voilà, c'est vrai que ça peut faire qu'on perd un peu l'objectif général qui est de faire un travail de qualité et de rendre des décisions qui sont justes sur la reconnaissance du statut de réfugié.
Toutes les démarches à suivre seront indiquées dans la décision pour obtenir les documents qui vous permettront de faire valoir votre statut de réfugié. Si la réponse est négative, vous avez un délai de 2 mois pour faire appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc faites bien attention à compter de la réception de votre courrier.
C'est si on a un vrai doute, vrai, on ne sait pas si c'est oui ou si c'est non, on n'est pas sûr, c'est vraiment 50-50. En principe, on doit accorder le statut de réfugié quand on a ce vrai doute. Parce que peut-être qu'en réalité, il n'a pas de crainte. Mais s'il a des craintes et qu'on le renvoie dans ce pays d'origine, c'est grave. Parce qu'il risque la mort et la torture. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que dans la pratique, à mon sens, il peut y avoir des dérives. Et c'est vrai que Par exemple, à l'époque où je travaillais à l'OFPRA, le bénéfice du doute, qui normalement doit bénéficier aux demandeurs d'asile, était pas utilisé vraiment. En général, quand quelqu'un avait un doute, il allait plutôt aller vers une décision de rejet plutôt que vers une décision d'acceptation.
C'était L'asile est entre leurs mains, avec Marie, Claire et Julie. Encadrement, Nicole Gauthier, Marie Guérin et Christophe Deleu. Mixage, Jean-Christophe Galen. Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Un podcast d'Augustin Campos.